Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. On va voir dans cet épisode les petites histoires qui ont fait la grande histoire du réseau social Instagram. Ce qui est bien pendant l'été, c'est qu'on a un petit peu plus de temps. J'en ai profité pour lire le livre Instagram sans filtre, les secrets de la start-up qui a révolutionné nos modes de vie, qui est paru chez Duno il y a quelques mois et qui a été rédigé par Sarah Freyer. Alors c'est un ouvrage qui raconte le parcours des fondateurs de la start-up en Californie. J'ai aimé ce livre parce qu'on est vraiment plongé dans les tout débuts de l'appli, on est vraiment dans le quotidien des créateurs de la start-up, vraiment ce qu'ils ont vécu au jour le jour avant Instagram et pendant toute l'aventure d'Instagram. Et en même temps, ils étaient acteurs sans le savoir des petites histoires, des anecdotes et de la création aussi d'autres réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Alors le voyage qui est proposé dans le livre, il est vraiment passionnant. On va vraiment depuis les débuts d'Insta jusqu'à son rachat par Facebook en 2012, puis après aussi son intégration difficile avec la firme et les équipes de Zuckerberg qui finira finalement par le départ des fondateurs d'Instagram. Au fil des pages, on découvre plein d'anecdotes et petites histoires qui ont façonné la grande histoire d'Insta. Ça nous permet vraiment de bien comprendre ce qui a façonné l'ADN du réseau social. Il y a plein de particularités d'Instagram qu'il n'y a pas sur les autres réseaux sociaux et on comprend pourquoi dans ce livre. Alors je vais vous partager 10 anecdotes que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Je pense que la plupart d'entre elles, vous ne les connaissiez pas. Ce que je vous invite à faire, bien sûr, ici, c'est juste un apéritif. C'est pour vous donner envie de découvrir le livre à votre tour, de vous plonger dedans et de voir un peu tous les détails de cette histoire. Voilà, moi, je vous en dévoile juste d'ici. Après, je vous laisserai le soin, si vous le souhaitez, d'aller découvrir le reste au fil des pages. Alors, premièrement, on apprend que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, il a approché le fondateur d'Insta, Kevin Systrom, au tout début de Facebook, pour développer une fonctionnalité. On est en 2005, c'est au tout début de l'aventure Facebook. Zuckerberg, c'est un étudiant qui vient juste d'abandonner Stanford pour se consacrer à son projet, TheFacebook.com, qui affichait déjà une belle croissance, il décide de quitter l'université. Et à cette époque, Facebook, c'est TheFacebook, c'est encore pauvre en termes de fonctionnalité, il n'y a pas grand-chose comparé à l'autre grand réseau social qui s'appelle MySpace. Alors Zuckerberg contacte un autre étudiant de Stanford qu'il avait rencontré par l'intermédiaire d'amis, il s'appelle Kevin Systrom donc, et il l'approche pour essayer de le débaucher et pour qu'il l'aide à développer l'ajout et le partage de photos sur Facebook. Mais Systrom, il est encore étudiant, il ne veut pas se laisser séduire par cette proposition, sinon il faudrait qu'il quitte les bancs de Stanford et lui ce qu'il veut c'est avoir son diplôme. Alors il donne pas suite et donc il ne va pas devenir un des premiers employés de Facebook. Il va devenir employé de Facebook, peut-être malgré lui, mais ça va être un peu plus tard. Mais en tout cas, là, dans cette histoire-là, il aurait pu devenir l'un des premiers employés de Facebook en 2005, et c'est pas le cas, il passe à côté. Alors, deuxième petite histoire, donc Kevin Systrom, toujours lui, il a été stagiaire dans une entreprise qui est en train de développer un autre réseau social. Voilà, c'est un an plus tard, il doit effectuer un stage dans une start-up dans le cadre de ses études. Alors, il tombe sur un article du New York Times qui parle d'une jeune entreprise qui s'appelle Odeo, qui avait développé une marketplace pour les podcasts. Rendez-vous compte, en 2006, c'était des précurseurs à l'époque de faire du podcast. Alors Kevin est embauché, il va se retrouver dans un bureau voisin d'un ingénieur qui a 29 ans, qui est un codeur, un développeur, un gars assez brillant, il s'appelle Jacques Dorsey. Alors ils vont sympathiser, malgré leurs différences, ils ont des personnalités assez différentes. Et Dorsey, il travaille sur le projet Odeo, ça marche pas très bien, les podcasts, c'est un peu compliqué, et puis ils vont se faire descendre parce que Apple va intégrer l'appli podcast sur son téléphone, donc il va tuer le projet Odeo. Alors Dorsey va travailler sur un autre projet, qui est nommé TWTTR, voilà. Et puis les équipes d'Odeo sont assez enthousiastes pour ce projet, en fait ça permet de se partager des textes, des petits messages, etc. Mais Systrom lui croit pas du tout au potentiel de l'outil, puis du bon partage de texte c'est pas vraiment intéressant, il quitte l'entreprise. Il était déjà passé à côté de Facebook, là Systrom il va pas intégrer les équipes de ce qui allait devenir un des réseaux sociaux les plus puissants de la planète. Jack Dorsey et les autres étaient en train de créer Twitter. Ah, ça fait beaucoup, Facebook, Twitter, il est passé à côté des deux. Ensuite, il va travailler pour Google, voilà, au début de Google aussi. Bon, la firme, elle est déjà un peu déjà développée, mais il va faire partie aussi des équipes de Google. Ça, je vous laisse découvrir au fil des pages du livre, vous allez voir, c'est intéressant aussi. Notamment, vous allez voir, il y a une jeune femme à l'époque qui s'appelle Melissa Mayer, qui va devenir ensuite DG de Yahoo. Vous allez voir, elle va travailler sur les codes couleurs d'un bouton, et vous allez voir l'impact que ça a, le travail qu'elle va faire dessus juste pour une nuance de couleur, et vous allez voir ensuite l'impact sur le chiffre d'affaires, c'est absolument incroyable. Alors, troisième petite histoire, je ne sais pas si vous le saviez, c'est à Florence, en Italie, qu'est née l'idée de la photo carrée sur Instagram. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi sur Instagram les photos sont carrées. Bah, c'est une anecdote qu'on apprend dans le livre. Sistrom, c'est sa troisième année d'études à Stanford, il part en Italie, donc à Florence. C'est un programme d'études en fait, hein, sur l'entrepreneuriat. Lui, il est passionné d'art, c'est un garçon qui est passionné d'art. Alors, il se dit à Florence, je vais me régaler, hein, c'est le temple de la Renaissance. Alors, il s'achète un appareil photo à la pointe, hein, pour le cours de photographie. Et quand il arrive, son professeur, il lui prend son appareil, parce qu'il lui dit, t'es pas là pour rechercher la perfection. Alors, il prend son appareil dernier cri et lui donne un vieil appareil photo bas de gamme, un Olga, si certains connaissent. C'est un appareil un peu un joujou, quoi. Ça fait des photos floues, en noir et blanc, et juste en format carré. Sistrom va se régaler avec ça, il va comprendre que c'est pas la technologie qui doit mener à la perfection, il doit y avoir quelque chose derrière. Alors ce concept de photo un peu comme ça, un peu légère, surtout en format carré, ça va le fasciner, il va pas lâcher ça, il va vraiment aimer. Et c'est ce qu'il va implanter un peu plus tard, donc dans Instagram. Voilà pourquoi on a des photos carrées sur Instagram. S'il n'était pas parti en Italie, il y aurait des photos peut-être panoramiques ou verticales. Alors il y a l'énigme des photos carrées, mais il y a aussi une autre énigme, vous êtes peut-être déjà posé la question, moi je me la pose souvent, je me la posais avant la lecture du livre, c'est pourquoi il n'y a pas de bouton partagé sur Instagram ? C'est un truc fou ça. On peut liker, on peut faire plein de choses comme sur les autres réseaux sociaux, mais on ne peut pas partager. Bah en fait, voilà, anecdote qu'on apprend aussi, hein. Donc là on est en 2009, Kevin Sistrom va créer une appli après ses études, il va avoir un associé qui s'appelle Mac Krieger. Alors ils appellent leur appli Burnby. En fait, elle sera géolocalisée, vous voyez, à la manière de Foursquare. Hein. On est dans un endroit et on dit qu'on, voilà, je suis là, je me géolocalise. Alors, cette aventure, c'est pas génial, c'est un demi-échec. Mais les deux associés vont, malgré tout, se dire qu'il y a une fonctionnalité de cette appli-là qui est intéressante, c'est le partage de photos. Alors, ils vont conserver ce principe-là, ils vont développer une autre appli qu'ils vont appeler donc Instagram. Alors ils vont reprendre des fonctionnalités de base, des réseaux sociaux au départ, ils vont se regarder un petit peu ce que font les autres, ils se disent bah tiens on va regarder Twitter, Facebook, donc ils reprennent l'idée de Twitter de mettre en haut du compte le nombre de followers et le nombre de comptes suivis. Et puis ils regardent du côté de Facebook et bon ils disent tiens c'est bien, on peut liker une photo, c'est une bonne idée, donc au lieu de faire un pouce, ils font un cœur, voilà. Et puis, bah, tiens, ils se disent, Twitter, on peut repartager, Facebook aussi. Ils regardent un petit peu, ils regardent, puis ils se disent. Bon, ça va complexifier l'utilisation au départ de l'appli, les gens vont peut-être pas comprendre. Et puis pour eux, l'idée c'était, Instagram, c'est on prend une photo et on la partage à ses amis. Vous voyez pas vraiment l'intérêt pour un internaute de prendre la photo de quelqu'un d'autre et de la repartager. Donc ils se disent, on laisse tomber le bouton partager. Et bien aujourd'hui encore, cette fonctionnalité n'est pas présente sur la plateforme. Ils ont toujours refusé de l'installer et vous verrez peut-être dans les pages du livre, vous verrez, il y a un petit peu plus de détails aussi. Mais en tout cas, ils n'ont toujours pas la volonté de mettre cette fonction en place. Alors, une autre anecdote, pourquoi il y a des filtres sur Instagram ? Ah oui, pourquoi cette idée de filtre ? Ben en fait, c'est né lors d'une conversation entre Kevin Sistrom et sa petite amie de l'époque, ben, qui est devenue son épouse, hein, Nicole Schwetz. Voilà, ils sont sur la plage, ils marchent, et puis il lui parle de l'appli, etc. Et puis elle lui dit que non, elle n'utilisera pas Instagram. Bon, on est au tout début des smartphones, les amis, hein, elle dit voilà, mon téléphone, il fait pas des belles photos, c'est pas des photos de qualité, je me vois pas partager ça, elles sont vraiment pas jolies. Par contre, elle dit moi, j'aime bien celle d'un ami commun, eux deux, elle trouvait très réussie, très belle. Et Sistrom, qui aimait l'art et la photo, lui dit bah oui, mais c'est ce qu'il fait en fait, il utilise des filtres Photoshop avant de les publier. Alors ça fait tilt dans sa tête, il se dit ce qu'elle vient de me dire, beaucoup vont penser la même chose, les appareils photo font pas des belles photos et les gens vont pas vouloir utiliser Instagram pour mettre leur contenu parce qu'ils vont pas être vraiment fiers de ce qu'ils font quoi. Alors il rentre, il ouvre son ordinateur, il ouvre Photoshop, il crée un filtre qu'il va appeler X-Pro 2, il va l'implanter dans Instagram et du coup voilà, l'idée des filtres était née. Alors ensuite, ils en ont développé plusieurs. X-Pro 2, il est toujours dans Insta et il fait partie des 10 filtres les plus utilisés. Alors, si vous allez en bas de ce podcast, vous allez voir un lien vers le site empreintedigitale.com qui héberge ce podcast. Et je vous ai mis une capture d'écran d'une photo prise avec X-Pro 2. Vous allez reconnaître assez facilement. Hein. Ça assombrit un petit peu les bords notamment et ça donne une teinte un peu particulière à la photo. Alors on a dit Sistrom, c'est quelqu'un qui est passé à côté de Facebook, qui est passé à côté de Twitter, qui n'est pas resté chez Google. Il va développer Instagram quand même, mais au début c'est encore vraiment balbutiant, hein, c'est vraiment les tout débuts. Et sans le savoir, il va être le spectateur privilégié de la première levée de fonds d'une start-up emblématique de la Silicon Valley. Ça se passe un soir, très tard, il est dans un bar de la ville, il est en train de coder sur son ordinateur, il est en train de coder l'appli Instagram. Et dans la pièce à côté, il y a un jeune entrepreneur, là, un jeune homme, qui est en train de faire une levée de fonds. Son concept c'est quoi ? C'est une appli pour réserver simplement une voiture de luxe depuis un téléphone portable. Le jeune homme s'appelle Travis Kalanick, l'entreprise s'appelle UberCap et elle va devenir Uber. Voilà donc, une fois encore, Systrum, témoin privilégié de grands événements de la Silicon Valley, à la suite de son blagré, on dirait. Alors ce qui est étonnant aussi, ce qui est amusant, c'est que à la fin de cette présentation, de cette levée de fonds, les investisseurs sortent et puis il y a un homme, un investisseur qui connaissait Systrum, il l'avait déjà rencontré, et puis il le voit en train de coder tard dans la nuit, il se dit s'il est là, c'est qu'il est sur un projet. Il s'approche de lui, il discute, il demande ce qu'il fait, etc. Et de fil en aiguille, à la fin de la conversation, une heure plus tard, Chris Sacca, c'est son nom, va devenir l'un des premiers investisseurs d'Instagram. Il avait déjà investi dans Twitter et là, il va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent suite à cette soirée-là. Alors Instagram est né, Instagram va devenir un monstre. Et quelle est l'origine du nom Instagram? D'où ça vient ce nom Instagram? C'est pas facile, hein, les amis, vous le savez peut-être, hein, de trouver un nom pour sa marque. Surtout en plus, dans le cas de Kevin Systrum et de son associé, les meilleures idées autour de la photo, les meilleurs noms et tout ça, ça avait déjà été développé par d'autres startups du secteur. Alors il n'y avait plus grand-chose, hein, c'est souvent le cas. Alors ils vont appliquer un principe simple pour trouver un nom de marque, que vous pouvez reproduire d'ailleurs. Premièrement, ils vont définir leur concept de base. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un nom court, facile à épeler, qui se comprenne hein, donc dans beaucoup de langues aussi, et qui évoque la vitesse. Ensuite, ils sont amusés à prendre deux mots et d'en faire la contraction. Alors, ils choisissent plein de mots, et puis ils retiennent Instant et Telegram. Et en les fusionnant, ça fait Instagram. Voilà. Un nom de marque qui va devenir incontournable et qui vient de voir le jour assez simplement. Alors, la preuve de ce succès, c'est qu'Instagram est devenu un verbe. Hein. On n'hésite pas à Instagrammer hein, son plat, sa nouvelle paire de chaussures, la vue de son appartement. Voilà. Alors, on dit qu'un contenu est Instagrammable, mais on ne dit pas qu'un contenu est Facebookable, Tweetable, LinkedInable. Voilà. Instagram, c'est comme Uber, hein, c'est avec le verbe uberiser aussi. Hein. Il y a peu de marques qui ont le privilège de rentrer dans le vocabulaire courant. Ben, Instagram, ça fait partie de ce siècle très très restreint. On Instagramme quelque chose, c'est devenu un verbe. Alors, il y a le nom de la marque, mais il y a aussi le logo. Le logo, il est atypique d'Insta. D'où vient ce logo? C'est pas facile aussi de trouver un logo impactant. Hein. C'est un nom de marque, c'est pas simple, un logo non plus. Kevin, Systrum, Mark Rieger, ils ont trouvé facilement le nom de l'appli. Ils n'ont pas pris une grande agence de communication. Pareil pour le logo. Au début, ils ont choisi simplement un appareil Polaroid blanc. Voilà, je vous ai mis là encore une capture d'écran de l'évolution du logo d'Instagram à aujourd'hui sur le site empreintedigitale.com qui héberge ce podcast. Alors, je vous en ai juste mis trois parce qu'il y a eu des petites déclinaisons, mais pour faire simple, il y a trois modèles. 2010, l'appareil Polaroid. 2013, il y a un appareil photo marron avec une petite bande de toutes les couleurs marquée Insta. Et puis, depuis 2016, on a le logo plus flat design hein, qu'on connaît sur nos écrans de smartphone. Alors, neuvième anecdote. En 2010, Twitter a failli acheter Instagram. Mais pour une somme plutôt dérisoire pour aujourd'hui. En fait, c'est Jack Dorsey, il est resté ami avec Kevin Systrum, et Jack Dorsey, c'est un utilisateur fervent, un ambassadeur d'Instagram, il aime beaucoup l'appli. Lui, Dorsey et Twitter sont déjà devenus gros. Hein. Donc, il dit pourquoi pas racheter la start-up de Systrum. Il aime beaucoup l'idée du partage de photos, il se dit que Twitter aurait dû le lancer, mais bon, voilà, du coup, c'est plus simple de racheter la boîte de son ami. Le problème, c'est qu'à l'époque, Dorsey, il n'est plus CEO de Twitter. Il s'est fait sortir, parce que caractère, problème de management, etc. Il s'est fait sortir. Le DG, c'est un des autres cofondateurs de Twitter, c'est Evan Williams. Le problème, là encore, c'est qu'ils se détestent tous les deux. Et Williams doit encore s'imposer devant Dorsey, qui a quand même un peu la main sur les équipes. Alors, Dorsey lui propose de racheter Instagram, mais Williams lui dit ouais, on a déjà étudié le dossier. Et c'était vrai, parce que Systrum s'était déjà rapproché de Twitter pour voir un petit peu, essayer de les rencontrer. Et les équipes de Twitter, ceux qui se chargent des fusions et acquisitions, avaient estimé le prix. Et ils s'étaient dit, Twitter, ça vaut 20 millions de dollars. Et Williams, il décide de ne pas acheter. Il dit à Dorsey, on prédit pas un grand avenir à Instagram, en fait. Ouais, mais deux ans plus tard, c'est Zuckerberg qui va racheter Instagram. Et il va pas le payer 20 millions de dollars, il va le payer 1 milliard de dollars. C'est 50 fois plus cher. En 2020, Bloomberg évaluait le réseau social Instagram à plus de 100 milliards de dollars. C'est-à-dire ce qu'a racheté Zuckerberg, il a fait x 100. Et sur une mise à 1 milliard, ça fait beaucoup d'argent. Zuckerberg, c'est un meilleur investisseur, un meilleur visionnaire qu'Evan Williams, sans aucun doute. Allez, je vous partage une dernière petite anecdote. Je ne veux pas tout vous dire encore une fois, je préfère vous laisser le plaisir de découvrir le reste dans le livre. On apprend que quand il a ouvert son compte, Justin Bieber, le chanteur, il a fait du chantage à Instagram. On est en 2011, c'est une date importante pour Insta, c'est le 22 juillet. Bieber ouvre son compte sur Insta, il publie une première photo. Alors à l'époque, il avait déjà 11 millions d'abonnés sur Twitter, hein, ça pesait déjà, hein, Bieber sur les réseaux sociaux. Là, il ouvre son compte sur l'appli. Pour sa première photo, il fait un truc pas dingue. Il prend une photo des bouchons à Los Angeles, il est en voiture avec ses équipes, et puis bah, il retouche avec un filtre, rien de fantastique, puis il dit « Oh là là, le trafic sur Los Angeles, ça craint et tout. » Bon, rien de spécial. Mais c'est Justin Bieber, les amis, et c'est un influenceur, hein, pour le coup. La photo, elle fait un véritable appel d'air. Et quelques minutes après qu'il ait publié sa photo, il commence à voir les abonnés qui arrivent. 50 abonnés par minute. Vous imaginez votre compte Instagram qui prend 50 abonnés à la minute. Un truc de dingue. Il voit que ça cartonne. Alors son manager, hein, qui suit ses affaires, il s'appelle Scooter Braun. Il prend son téléphone, il appelle Systrom. Il lui fait une proposition, il dit voilà, ça cartonne, tu vois que Justin vient d'arriver sur la plateforme, tu vas prendre beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, il va te faire décoller ton appli. Justin veut te faire une proposition. Alors on ne sait pas vraiment si c'est Justin Bieber qui a demandé ça ou si son manager, mais en tout cas il dit voilà, soit tu acceptes que Justin il investisse dans Instagram, ou soit tu le rémunères pour qu'il publie des contenus sur ta plateforme. Sinon, il arrête d'utiliser l'appli. Systrom refuse catégorique, il dit non, on n'a pas du tout cette politique là, donc soit il s'en va, nous on paye pas pour du contenu. Bon, donc tact, Bieber, bah, il allait fermer son compte, hein, il allait écouter son manager, mais il y a sa petite amie de l'époque, Selena Gomez, qui lui dit « Non, reste sur la plateforme, c'est vraiment sympa, et reste dessus. » Et Bieber va rester, effectivement, actif sur l'appli, et du coup, bah, Bieber va rester sur l'appli, et ça va être un véritable tournant pour Insta. Dans le livre, justement, l'auteur Sarah Friar a décrit que c'est vraiment l'arrivée du chanteur qui a boosté la croissance d'Insta. En fait, auparavant, les utilisateurs, c'était plutôt des internautes matures, plutôt sérieux, passionnés de photos, d'art, etc. Avec Bieber, il y a toute une nouvelle population qui est arrivée, c'était des internautes beaucoup plus jeunes, qui avaient une communication beaucoup plus spontanée, plus réactif, ils utilisaient beaucoup d'émojis, c'était des fans de pop culture, voilà, c'était vraiment l'opposé des utilisateurs de premiers, hein, early adopters Instagram. C'était un véritable bouleversement, c'est un facteur important de son développement, et aujourd'hui, bah, 10 ans plus tard, Bieber, c'est 190 millions d'abonnés sur Instagram, et Insta, c'est plus de 1,3 milliard d'utilisateurs, et quasiment la plupart l'utilisent quotidiennement. Alors c'est un truc de dingue, ça a vraiment fait exploser l'appli, Facebook a racheté, ensuite il va y avoir les relations difficiles entre Kevin Systrom et Mark Zuckerberg, pas conflictuelles, mais toujours un peu tendues, et puis à la fin ça va aller jusque à la rupture, et vous découvrirez peut-être tout ça dans le livre si ça vous intéresse. Moi je m'arrête ici, je vous ai donné 10 petites histoires de la grande histoire d'Instagram, encore une fois je vous laisse le plaisir de découvrir les autres anecdotes au fil des pages, c'est un régal, vraiment, je me suis régalé personnellement, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à lire ce livre. Si vous voulez aller plus loin avec Instagram, je vous invite à écouter les autres podcasts que j'ai fait sur le thème. Il y avait le Club des 7 sur Insta, c'est les 7 personnalités qui ont plus de 200 millions de fans. Vous verrez, le classement est assez surprenant, il y a des noms que vous ne connaissez peut-être pas. Ensuite, j'ai fait un deuxième podcast, c'était sur le thème du community management, comment on peut être original sans être banal sur Instagram. Et un troisième qui était comment utiliser la fonction guide sur Instagram. C'est peut-être une fonction que vous n'utilisez pas. Vous pouvez presque vous créer un blog sur Insta, c'est super intéressant. Si vous êtes une marque ou même à titre perso. Voilà, si vous voulez aller encore plus loin en termes de community management, j'ai lancé dernièrement une formation gratuite pour vous aider à créer des contenus originaux pour les réseaux sociaux. Voilà une formation très simple qui vous donne plein d'astuces pour savoir toujours quoi publier avec des contenus qui sortent du cadre. Pour vous inscrire, vous allez sur l'empreintedigitale.com, tout en haut sur formation, vous mettez votre email et c'est parti. Sinon, vous avez un lien tout en bas de ce podcast. Enfin, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter, ça vous permettra d'être tenu informé des prochains épisodes, et de toutes les nouveautés, de toutes les astuces et conseils que je peux également vous partager. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, belles vacances si vous êtes encore en congé, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut à tous !